This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis. Je suis Anne Boyer, journaliste de la rédaction d'Eurosport et je suis très heureuse de vous retrouver et de retrouver Arnaud Di Pasquale, bien sûr. Salut Arnaud.
Salut Anne.
Pour parler tennis avec Deep aujourd'hui, Maxime Battistella est au rendez-vous. Salut Maxime.
Salut à tous, c'est la course au Masters, donc je suis là toutes les semaines. Et c'est important.
C'est la dernière ligne droite, c'est important. Au programme de ce Deep Impact, un petit point justement sur cette dernière ligne droite, cette course aux Masters après les tournois de Tokyo, Stockholm et Anvers de la semaine dernière. Le suspense reste entier quant aux dernières places vacantes pour Turin, qui y parviendra malgré la fatigue de fin de saison. On analysera les chances de chacun. Et l'on parlera bien sûr de la belle semaine des Français avec la stade de Constance, notre partenaire du compte Jeux 7 et Maths sur Gaël Monfils. Un mot sur Arthur Fils également. Et puis l'œil de Deep sur un troisième tricolore, On n'arrête plus progrès, qui a retenu son attention cette semaine. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Acast, Apple Podcast. Abonnez-vous et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Vous retrouverez également sur eurosport.fr des extraits vidéo de cette émission. Les joueurs sont prêts, Deep Impact, c'est parti. Avant de démarrer, messieurs, on va revenir sur l'actualité du jour, de la soirée d'hier. Un petit mot sur Sébastien Grosjean, qui n'est plus le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. L'annonce a été faite hier soir. Après 4 ans à la tête des Bleus, l'ancien numéro 4 mondial va s'investir dans un nouveau poste d'entraîneur, celui du Français Arthur Fils, aux côtés de Sergi Bruguera. Le nom de son successeur sera annoncé après le Rolex Paris Masters en novembre. Alors, cette fin de collaboration avec la Coupe Davis pour Sébastien Grosjean et le début de l'aventure avec Arthur Fils, qu'est-ce que ça vous inspire, Arnaud? C'est une mauvaise nouvelle d'un côté, peut-être pour la Coupe Davis, c'est une bonne nouvelle pour Arthur Fils, c'est une nouvelle étape dans sa progression?
Ouais, alors après, moi, je n'ai pas échangé avec Sébastien. Mais je crois qu'il y a des cycles hein, aussi. Hein. Il faut aussi penser à ce genre de choses. Enfin, à un moment donné, la roue doit tourner. C'est comme ça que ça se passe. Et notamment, quand on est capitaine de Coupe Davis. En plus, là, cette année, ça avait été assez compliqué. Il avait été un peu mis en défaut sur le sujet de sélectionneur ou pas, étant donné qu'il avait d'autres affaires, justement, qui étaient en lien direct avec certains joueurs. Donc, il y avait une sorte de conflit d'intérêts possible. Et donc, il était finalement capitaine, mais plus sélectionneur. Chemin faisant, je pense que lui, il a toujours eu la fibre en plus, hein, vraiment de l'entraînement. Seb, il a toujours adoré ça. Il est resté longtemps sur le circuit avec Richard Gasquet, bien évidemment. Il a entraîné aussi Kyrgios sur un certain nombre de semaines. Il adore être sur le terrain. Il adore être au contact des joueurs. Donc, c'est pas une grande surprise finalement de le voir rejoindre l'équipe d'Arthur Fils. Alors après, on avait échangé il n'y a pas si longtemps avec Laurent Raymond. Ils ont fait une année fantastique, fantastique. Honnêtement, je crois qu'il était il y a un an au-delà de la 300e place mondiale. Hein. Si on regarde,
oui, il démarre 320e. Ouais.
La progression, elle est gigantesque avec un bon phénoménal. Là, il est dans le top 40. C'est pas fini. Vu un petit peu l'état de confiance dans lequel il est sur ces dernières semaines, on peut s'attendre à ce qu'il fasse vraiment péter tous les compteurs encore, et c'est génial. Donc oui, évidemment, pour la Coupe Davis, c'est une mauvaise nouvelle, mais il y aura du monde. Hein. On sait très bien que de ce côté-là, il y a pas mal, j'imagine, d'anciens joueurs qui vont se positionner. Et c'est plutôt une très bonne nouvelle, oui, de savoir que Seb rejoint Arthur, il a toute une expérience quand même à lui témoigner, à lui apporter. Il a été quatrième mondial, si mon souvenir est bon. En plus, si j'ai bien compris, il y a Sergi Bruguera qui sera à leur côté, qui a aussi un peu d'expérience, on peut le dire.
Donc, c'est un tandem qui a déjà existé avec Gasquet, justement.
Mais je trouve que, en fait, C'est aussi très bien qu'un joueur comme Arthur prenne son envol rapidement. Le rôle de la Fédé, je crois qu'il est là. Moi, je veux vraiment insister sur ce point. La Fédé, elle est là pour outiller, armer, préparer au mieux, en fait, ses athlètes pour le haut niveau. Et quand un joueur est prêt à décrocher un peu la caravane, ben c'est bien qu'il s'en aille, qu'il parte, qu'il prenne son envol et qu'il choisisse son staff. Qu'il fasse les choix, qu'il investisse dans son projet, ça, je pense que c'est capital. On le voit, toutes les meilleures et tous les meilleurs l'ont fait. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est un signal aussi très important, un indicateur très important sur l'ambition qui est la sienne, tout simplement.
Il va y avoir des candidats pour remplacer Sébastien Grosjean à ce poste-là, surtout qu'il y a des échéances importantes qui arrivent, avec notamment ces JO l'année prochaine.
Oui, c'est ce qui m'interpelle un peu. Je suis d'accord avec Arnaud sur la fin de cycle, ça faisait 4 ans. On peut dire qu'au niveau des résultats, c'était, bon, il faut être honnête, pas une franche réussite dans le sens où, même si cette nouvelle formule
Oui, c'est lié au
de Coupe
format
Davis
aussi.
nous a cassé les pieds pendant ces 4 ans, il faut bien se rendre compte que la France n'a jamais passé les poules. Donc, de ce côté-là, ça reflétait aussi. L'état du tennis masculin français avec l'an dernier pas un joueur dans le top 40, ce qui était une première depuis 25 ans, il me semble. Donc j'ai envie de dire qu'il n'a pas su, entre guillemets, faire d'exploit ou sublimer ses joueurs, mais peut-on lui en vouloir, Sébastien Grosjean, dans le contexte de la Coupe Davis actuelle avec si peu d'ambiance, si peu, en fait, si peu une Coupe Davis, c'est une épreuve qui n'est plus une Coupe Davis, donc c'est difficile de lui en vouloir dans ce contexte. Ce qui est un peu, voilà, ce qui m'interpelle un peu, c'est le côté à quelques mois des JO seulement, à quelques mois des Jeux Olympiques, changer le capitaine, c'est spécial parce qu'il avait quand même mis des choses en place. Je trouvais que Humbert avait pris depuis un an une belle position dans cette équipe grâce au leadership de Grosjean. C'est quand même aussi Grosjean qui a lancé Arthur Fils en septembre sous le maillot bleu. Donc, il avait initié des choses qu'il faudra que son successeur poursuive et qu'il magnifie. Alors, qui ça pourrait bien être? C'est une bonne question. Moi, je pense naturellement à Paul-Henri Mathieu. Pourquoi je pense à Paul-Henri Mathieu naturellement? Parce que c'est celui, justement, auquel la sélection a été donnée. La responsabilité de la sélection ces derniers mois a été
Oui,
donnée par
après le
la
conflit
Fédération
d'intérêts.
française de tennis. Alors, il est actuellement directeur du haut niveau. On verra ce qu'il en sera. La décision sera prise après le Rolex Paris Masters, après Bercy. Pour ce qui est d'Arthur Fils, ce que disait Arnaud me paraît très, très pertinent. Ça me rappelle un peu si on veut avoir des grandes références, un Roger Federer qui arrête avec Peter Carter et qui passe à Lundgren pour son développement, pour encore franchir un palier. Donc il y a de ça, il faut, en effet, il faut qu'il prenne son envol. Alors il n'est pas totalement coupé de la fédération, dans le sens où il sera aidé encore mentalement, il aura des ressources de la fédération sur le côté mental, sur le côté physique aussi, l'accompagnement physique et mental par la fédération. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'entraînement, sa structure est totalement neuve maintenant, et avec un attelage expérimenté qui a déjà roulé sa bosse avec Richard Gasquet, qui se connaît bien et qui, à mon avis, va fonctionner en toute intelligence. Et ce qui est important, c'est la transmission d'expérience aussi. Sébastien Grosjean a connu le très haut niveau. Sergi Bruguera, j'en parle même pas, et vainqueur de Roland-Garros, donc on fait difficilement mieux à ce niveau-là. Et puis, il y a une belle dynamique côté français, j'ai envie de dire, même sur le circuit. C'est-à-dire qu'un Gaël Monfils, dont on va parler tout à l'heure, chapeaute aussi un peu Arthur Fils. Ils ont parlé ensemble lors de la Laver Cup. Il y a une espèce de transmission aussi d'expérience à ce niveau-là. Donc, je pense que Arthur Fils est sur de bons rails et c'est une bonne nouvelle pour moi qu'il franchisse encore ce cap la saison prochaine.
Juste pour revenir sur le prochain capitaine, tu parles de Paul-Henri Mathieu. Après, moi je crois que c'est quand même compliqué aussi pour Polo. de récupère en plus cette fonction, en
Mais
plus
je...
de celle qui est la sienne à la
Non,
Fédé.
mais c'est une... je me demande s'il va pas y avoir une réorganisation après, c'est
Pour
à
moi,
la Fédé.
ça,
Après, je
ce
sais
que je veux
pas.
te dire, c'est que ça pourrait se faire, il pourrait le faire enfin, de manière intérimaire, mais sinon, j'ai du mal à imaginer que ça puisse le faire. Enfin, il risque quand même d'y avoir du monde, tu vois, qui va se positionner,
Oui,
des
bien sûr.
gens. On a quelques joueurs qui ont arrêté il n'y a pas si longtemps, quand même, et qui ont adoré cette Coupe Davis et qui l'ont portée aussi. Et donc,
Ouais, c'est vrai.
tu vois, à un moment,
Tu
enfin,
penses à un
peut-être que
Mikael
tu peux pas.
Audra, quelque chose comme ça? Ouais.
Non, mais il y en a plein. Gilles Simon,
Gilles
enfin,
Simon,
Joe
bien sûr.
Tsonga.
C'est vrai que Gilles Simon avait fait pas acte de candidature, mais il avait dit que ça l'intéresserait d'être capitaine de
Attention, non, mais
Coupe
je
Davis.
dis juste qu'il y en a plein en fait qui sont
Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
susceptibles de pouvoir prendre le poste et qui probablement le souhaiteraient aussi. Hein, après ça, voilà, quel que soit le format, la formule de cette Coupe Davis. Écoute, après, je pense qu'il doit y avoir plein de discussions. Je crois que c'est prévu après le Rolex Paris Masters. Mais il y a du monde. En tout cas,
C'est
je
sûr.
pense qu'il y aura plein d'options. Plein d'options et il y aura forcément des bonnes options.
Bon, bah, on suivra ça avec intérêt de toute façon, avec quand même le point d'interrogation de la formule de cette Coupe Davis qui va changer normalement et qu'on espère eh bien, la plus intéressante possible pour
Juste
nos
un petit,
Bleus. Et... Oui.
juste une petite chose par rapport à cette formule. Il y a eu, on l'avait évoqué dans une émission précédente, mais l'élection à la Fédération internationale a eu lieu et c'est toujours
Oui, pas de changement.
David Hegarty qui est président. Donc il n'y aura pas de en tout cas de nouvelle vision à mon avis extraordinaire de ce point de vue-là. On verra, hein, mais bon, ça m'étonnerait.
On espère qu'il prendra l'occasion de quand même voilà, une grande concertation avec peut-être avec les joueurs pour penser une formule qui mettra sans doute pas tout le monde d'accord, mais qui plaira un peu plus que celle qui était en cours. On a parlé d'Arthur Fils, donc qui a connu une belle semaine avec cette nouvelle finale, même s'il est tombé sur un Alexander Bublik très impressionnant, qui, quand il joue comme ça, bah, laisse peu d'options à son adversaire. Donc, il n'a pas pu faire grand-chose, Arthur Fils. C'est une nouvelle finale après son titre qu'il a remporté à Lyon cette saison. On a parlé de cette fulgurante ascension. Il y a un autre Français qui a brillé aussi, c'est Gaël Monfils, puisqu'il était en finale et il a remporté cette finale à Stockholm. Et il fait l'objet de la stat de Jeux 7 et Mat. Gaël Monfils qui a remporté donc à Stockholm le 12e titre de sa carrière, 18 ans, 2 mois et 14 jours après son premier sur le circuit ATP. C'était à Sopot en 2005, son premier succès. Seul Roger Federer a enregistré un plus grand gap entre son premier et son dernier titre depuis le début de l'Air Open. Roger Federer, c'était 18 ans, 8 mois et 22 jours entre Milan en 2001 et Bâle en 2019, son dernier titre. Gaël Monfils donc est juste derrière dans cette liste, devant Rafael Nadal, qui pourra peut-être encore remporter un dernier titre. Pour l'instant, c'est Roland-Garros 2022. Ça en dit long quand même sur cette longévité de Gaël Monfils, sur cette constance. J'ajoute que 19 ans que Gaël Monfils dispute au moins une finale chaque année. Donc c'est quand même une sacrée stat. Et avec cette victoire, il est de retour dans le top 100. Il a 37 ans. Gaël Monfils, il n'en finit plus de nous impressionner. C'est quand même dingue cette stat de
Oui,
longévité.
c'est dingue, c'est beau, ça en dit long sur le niveau moyen de Gaël Monfils, en fait, durant toute sa carrière. Ce qui m'a impressionné, c'est, enfin, et c'est ce qui correspond à ce qu'il disait, lui, après sa victoire. Il disait, mais il faut pas oublier qu'avant mes pépins physiques, j'étais 15e mondial. Donc, c'est pas surprenant pour moi, si j'arrive à enchaîner, de me retrouver à ce niveau-là, à gagner un ATP 250. Je suis très heureux parce que c'est le premier depuis que je suis père. Enfin, il a dit pas mal de choses comme ça, mais je trouve qu'il a raison de ce point de vue sur son niveau moyen qui reste très, très, très élevé, cette capacité à gagner parfois sans pratiquer son meilleur tennis. On l'a vu même à Stockholm, il y a eu des débuts de match très très compliqués, même en finale d'ailleurs
Même en finale, ouais.
contre le Russe Kotov, il me semble, hein,
Kotov.
qui était au-delà de la 200e mondiale, 200e place mondiale, donc une vraie surprise, mais avec un jeu de cognure assez incroyable, notamment en coup droit. Donc mon fils a dû se battre au début, il a même à 5-5 dans le deuxième set. Il était à 0-40 sur son service, donc il avait perdu la première manche, donc il était très très mal. Mais il a su serrer les dents, y aller à la bagarre, et puis finalement gagner à l'usure. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'à 37 ans, physiquement, quand il arrive à enchaîner un peu, il est toujours au-dessus de la plupart des joueurs. On parlait du physique extraordinaire de Djokovic. C'est pas le même physique, hein, Gaël, mais il a des qualités athlétiques qui sont encore ébouriffantes pour son âge. On le voit, faut dire ce qui est, on voit pas son âge en fait. Quand il arrive à enchaîner comme ça, quand il a pas de pépin physique, on voit pas son âge. Alors que un Richard Gasquet, on voit que pour enchaîner, c'est difficile. Un Gilles Simon, l'année dernière, sur la fin, on sentait qu'il tirait la langue. Joe Wilfried Tsonga, pareil. Donc, de ce point de vue-là, il est quand même, j'ai envie de dire, assez unique dans cette génération qui était fantastique déjà. Je ne sais pas ce que tu en penses, Arnaud.
Alors écoute, moi ce que j'ai envie de dire c'est sur Gaël Monfils, c'est que c'est un joueur extraordinaire en tout point et qu'on adore en fait. Et en plus, qui est, et là c'est personnel, mais quelqu'un de très humain en fait.
Ouais.
Et d'ailleurs, quand on le voit
Attachant, très
dans
attachant,
attachant
comme
dans ses discours, dans ses propos, tu sens qu'il y a quand même toujours quelque chose de très personnel, je trouve. Voilà, et il a eu du mal peut-être à se faire comprendre à certains moments parce qu'il allait moins bien. Et c'est la vie en fait, tout simplement. De pouvoir dire, bah là oui, j'ai un creux, alors je suis blessé, mais pas que. Là, j'ai un peu moins de motivation, j'ai un peu moins d'envie. En fait, sur 18 ans de carrière, c'est humain, c'est normal, en fait. Je veux dire, dans tous les métiers du monde, ça peut se produire, ça peut arriver. Sauf que là, c'est peut-être un peu plus visible. Il y a les micros qui se tendent, c'est pas facile. Faut répondre tout le temps, faut faire
métier
illusion
public,
parfois.
c'est un métier public, hein.
Tu vois, faut
Et
faire
sans
illusion.
pitié, qui pardonne pas grand-chose.
Et puis, tu sais, enfin, vous savez, c'est presque un aveu de faiblesse de dire je vais moins bien aujourd'hui. Ben non, parfois on va moins bien et lui, il est comme ça. Il n'y a finalement pas de façade. Et je trouve que ben, moi, j'ai toujours adoré au-delà du côté showman spectaculaire. C'est une star partout où il va, partout où il va.
Incroyable,
Il n'a
c'est
pas été numéro un
incroyable.
mondial, mais c'est une star incroyable dans le
Il
monde
est
du tennis,
acclamé partout, acclamé
ce qu'il
partout.
a donné au monde du tennis. On ne s'en rend pas compte. Quand il est à l'US Open, c'est fou, en fait. Il remplit un stade.
C'est
Et
incroyable.
ben,
Les
il
plus
est
grands lui
pour.
ont déjà rendu hommage, d'ailleurs.
Bien
Djokovic
sûr,
avait
mais
eu des
pour.
mots sur lui, très
Bien sûr.
impressionné.
Pourquoi il est à la Laver Cup aussi? Ben, on le sait bien, alors que son classement est peut-être pas au rendez-vous. Mais pour toutes ces raisons. Et après, quand tu joues pendant 18 ans comme ça et que tu arrives à tenir, à faire des finales chaque année, à gagner autant de titres, évidemment, on peut toujours dire ça aurait pu être mieux. On peut toujours dire oui, mais on refait l'histoire et dire il aurait pu en grand chelem. Mais franchement. Si on regarde aujourd'hui, et c'est pas le moment de le faire, mais quand même, quelle belle carrière. Et je trouve
Oui.
que moi, je veux dire, pour le tennis, ce que le mec donne, ce qu'il apporte, c'est fantastique. Donc oui, c'est un joueur extraordinaire sur le terrain et en dehors, c'est un super mec. Donc après, on l'aime, on l'aime pas. Moi, je trouve que c'est un gars aujourd'hui qui s'entraîne, qui fait les efforts, qui peut parfois, En fait, il est physiquement tellement fort naturellement, il a tellement de qualités qu'on aurait évidemment peut-être tous voulu qu'il aille plus loin parce que franchement, si ce gars-là avait gagné un grand chelem, ça aurait été fou en fait ce qui
C'est
se serait
sûr.
passé. Voilà,
Moi,
ça aurait été une folie. Voilà,
j'ai.
mais
Ouais,
c'est
vas-y.
magnifique quand même. Non, mais c'est.
J'ai coutume de dire que s'il avait eu le mental de Tsonga, s'il était un tout petit peu plus. Comment dire? Un petit peu. Tout petit peu plus concentré parfois dans sa carrière. Là, je trouve que dans sa dernière partie de carrière, de ce point de vue-là, il est irréprochable. Il a trouvé
Ouais.
cette qualité de concentration qui lui a parfois manqué quand il était au summum de son potentiel. Je pense qu'avec la capacité qu'avait Tsonga de sortir le l'ace quand il était avec balle de break contre lui dans les moments chauds, s'il avait eu cette capacité aussi forte à se sortir des situations compliquées ou à sortir le coup qu'il fallait au moment qu'il fallait, je pense que mon fils avait tout pour gagner un grand chelem. Maintenant, déjà, ça sert à rien de vivre dans le passé. Et puis
Non, après,
surtout.
ouais. Après, je suis partagé sur ce point, tu vois, sur la dimension mentale, parce que, en fait, est-ce que, alors après, tout est toujours lié avec le physique, mais tu vois, le problème, c'est, est-ce que ça n'a pas été un peu ça, ses habitudes et sa façon de jouer dans lesquels il s'est un peu enfermé à un moment. Donc, ce que je m'explique, quand tu gagnes, quand tu es junior et que tu fais péter trois grands chelems, je crois quand il était junior, il a gagné trois grands chelems. Donc, tu gagnes beaucoup de matchs et donc tu prends des habitudes à ce moment-là. Tu passes très vite le next step quand tu passes pro, tu gagnes aussi beaucoup de matchs et tu arrives jusqu'à un certain niveau en jouant d'une certaine manière. Et cette certaine manière, c'est en tenant sa ligne, en étant assez loin, en étant un peu
Oui, c'est
insubmersible
vrai.
du fond du court. Et c'est un peu ce qu'on lui a peut-être reproché, sauf que quand tu arrives en grand chelem et que tu fais 3-7 très accrochés ou 4-7 ou 5-7 dès les premiers tours et que tu arrives en huitième, en quart ou en demi, bah, tu arrives sur les rotules. Et c'est là où à un moment, la question que je me suis toujours un peu posée, est-ce que c'est le mental, est-ce que c'est sa façon de jouer où il aurait peut-être dû à un moment, comme les autres, les tout meilleurs ont réussi à le faire, à avancer plus, jouer plus tôt, écourter les échanges. Et ça, je crois que c'est le plus compliqué parce que forcément, quand on gagne, on pense, enfin, d'une certaine manière, on pense qu'on peut battre tout le monde de cette manière. Et le danger est là, en fait. La difficulté, elle est là. Je trouve que c'est le plus compliqué à faire évoluer, se dire, OK, très bien, mais maintenant, si je veux être dans les 5 premiers mondiaux et gagner des grands chelems, il faut encore que je progresse et il faut encore changer quelque chose. Et c'est dur, c'est très, très difficile parce que tu es déjà 7e mondial, que tu as fait quart, demi en grand chelem et que tu en gagnes un paquet de matchs, en fait. Et tu es convaincu presque cette certitude que c'est comme ça que tu dois les jouer. Or, à un moment, non, il faut passer à un truc un peu différent et ouais, faire évoluer ton jeu comme certains ont réussi à le faire. Mais ce n'est pas donné à tout le monde.
Mais
C'est pas donné à tout le monde.
c'est d'autant plus vrai ce que tu dis que même si on se passe, si on se place à un niveau supérieur, on se rappelle de Roger Federer face à Rafael Nadal sur terre battue au début de leur grande rivalité. Il y avait un espèce d'orgueil et d'entêtement à dire je vais le battre sur son terrain à son propre jeu. C'était un peu ça chez Federer, on disait, mais il veut le battre du fond, il veut le battre à la bataille du fond, alors que pour y arriver, il faudrait qu'il aille plus vers l'avant, il faudrait qu'il prenne plus de risques, il faudrait qu'il. Voilà. Il l'a fait sur la fin de carrière, d'ailleurs, Federer. Alors, sur terre battue,
Pas sur terre battue.
le problème était insoluble, mais par contre, sur les autres surfaces, il avait trouvé, entre guillemets, la solution. Et c'était assez extraordinaire. Et je trouve que de ce point de vue, quand même, mon fils a évolué dans sa réflexion au long de sa carrière. Il a fait des choix d'entraîneur qui étaient osés. Il s'est donné plusieurs fois un second souffle. Hein. On a parlé de Tillström, évidemment, en 2016 déjà. Là, il a repris récemment, mais il l'avait déjà en 2016 et c'était sa meilleure saison. D'un point de vue statistique, il était dans les 10 premiers, il avait fait demi-finale de l'US Open, enfin, il avait fait finale à Monte Carlo, il avait fait quand même de sacrés
Participe au
résultats en deux,
Masters.
voilà, de sacrés résultats en 2016. Et puis, même sur la fin de carrière, là, avant de reprendre Tillström, il a fait un choix osé qu'on pensait risqué avec Bresnik. Ça a failli y fonctionner. Le problème, c'est qu'après, le Covid a interrompu tout ça et puis il s'est blessé et finalement il a décidé de ne pas poursuivre et il a retrouvé de beaux repères avec Tillström. Mais je trouve que dans sa manière de réfléchir, il y a eu de l'évolution. Par contre, là où je suis vraiment d'accord avec toi, c'est sur la première partie de carrière et là où finalement tu peux progresser le plus. Et il n'a pas, peut-être pas assez exploité à ce moment-là cette marge qu'il avait, notamment dans le jeu vers l'avant. Maintenant, si on doit
En
parler.
étant contemporain de Roger Federer,
Ouais,
Rafael
voilà, de
Nadal et
Roger
Novak
Federer.
Djokovic,
Voilà,
hein.
des trois monstres et on va pas non plus lui reprocher de pas avoir
Mais
gagné
pas
un
du
Grand
tout.
Chelem. C'est pas
C'est
ça.
pas
Hein. C'est pas l'objet de notre
du tout
discussion. Hein.
l'objet. Pas
C'est
du
pas
tout.
l'objet de notre discussion. Et surtout, savourer le fait qu'à 37
C'est
ans,
ça,
alors qu'il a fait
surtout.
une quasi-saison blanche, faut pas l'oublier, il a fait une quasi-saison blanche à cause des blessures, de ses blessures, notamment en talon. Le mec revient cet été. Il tape les top 20 comme si c'était normal. Il tape Tsitsipas à Toronto.
Non, mais c'est très fort, c'est
Enfin,
très très fort.
c'est fou, c'est
Ce
fou.
dont il est
Et
capable, très très fort.
en si peu de temps, être capable de revenir à ce niveau-là. Et là, j'ai qu'une envie, c'est qu'il nous fasse à nouveau rêver à Bercy. Là, j'ai qu'une envie. Je sais pas vous, mais moi, j'ai l'envie qu'il enflamme cette salle qui est un public plus chaud que les autres. Donc voilà.
On va enchaîner avec un autre Français. Vous en avez l'habitude maintenant, chaque semaine, Arnaud s'attarde sur un joueur qui a retenu son attention. Et depuis quelque temps, ce joueur est systématiquement tricolore parce que voilà, le tennis français est plein de promesses et aussi avec les plus anciens comme Gaël Monfils. Donc on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Voici l'œil de Deep sur un autre Français.
Oui, tout à fait, Anne. Le tennis français retrouve encore des couleurs et c'est Giovanni Mpecci Pericard. Voilà, il va falloir se souvenir de son nom. Il vient de rentrer dans le top 200. Il est 194e mondial cette semaine. Il a tout juste 20 ans, lui aussi, donc il est très jeune. Alors, il est très grand. Il mesure 2,03 m. Il vient de faire quart à Anvers. Il a battu David Goffin. Alors, certes, c'est peut-être pas le David Goffin de l'époque, mais malgré tout, faut réussir à sortir encore ce joueur. Il est entraîné par Manu Planck, qui aussi est un entraîneur quand même d'expérience. On se souvient de son aventure avec Luc Tapouille, notamment, mais il y a eu Mikael Audra avant, il y a eu Ruffin, me semble-t-il. Donc, il y a eu du monde. Enfin, donc, il est très bien lancé, très bien parti. Il est alors fan de Nadal. Ça, c'est assez rigolo quand vous avez son gabarit qui fait 2,03 m. Vous imaginez qu'il envoie quelques services. Et il va falloir qu'il peut-être s'identifie à d'autres joueurs de son gabarit pour peut-être évoluer, enfin en tout cas, mais même si, enfin, avancer pour avancer tout court. Mais voilà, ça fait partie de la belle émulation en fait des joueurs français. Maxime en parlait un petit peu. Il y a Arthur Fils, c'est vrai, voilà, qui est un peu la locomotive. Il y a Lucas Van Hache maintenant aussi qui a beaucoup progressé. Et on en parle depuis quelques semaines, depuis quelques mois. On dit qu'il y en a d'autres qui arrivent parce que forcément, ça crée une aspiration, ça décomplexe aussi les suivants, les autres. Et Mpecci Perricard, ben, il en fait partie de cette génération qui progresse, qui avance. Alors, un gabarit, je vous l'ai dit, beaucoup plus compliqué à contrôler. Donc, ça, il peut mettre un peu plus de temps, tout simplement, que les autres. Pour cette raison, qu'il va falloir qu'il comprenne un petit peu sa façon de jouer. C'est pas simple, parce qu'il joue bien du fond du court. Il bouge vraiment pas mal pour un joueur de 2,03 m. Et il n'y a pas qu'un service. Donc, ça peut présager, ça peut augurer, enfin, me semble-t-il, un avenir assez bleu pour un petit Perica. Mais ça fait, voilà, c'est dans la lancée, en effet, de tous ces jeunes dont on parle. Moi, je trouve ça génial parce qu'on en a beaucoup parlé, hein, de cette relève qui n'arrive pas. Là, on parle beaucoup d'Arthur Fils qui est en train d'exploser. On a parlé de Lucas Van Hache qui a explosé aussi, hein, cette année. Et là, il y en a encore un, hein, j'ai envie de dire, et qui a à peine 20 ans. Il est tout jeune.
C'est ce qu'il a dit, hein. Il a dit Fils et Van Hache sont les diamants en tête, mais il y a plein d'autres joueurs, Cazaux, Maillot, De Bru, moi. On n'a qu'une envie, c'est de se retrouver dans le top 15 à l'avenir et de se battre pour un grand chelem, un Masters 1000. Donc il y a aussi de l'ambition. Mais c'est bien, cette émulation, on a parlé de Terence Hattman aussi il y a peu de temps. Et ça fait du bien. On parle de locomotives comme Monfils qui sont toujours là, qui ont fait rêver ces jeunes joueurs, mais qui peuvent continuer à apporter leur expérience. Mais ça promet de belles choses s'ils arrivent à trouver de la régularité.
Oui, ça promet de belles choses et je trouve que c'est une génération sans complexe. Je l'ai déjà dit d'Arthur Fils, et ce côté matcheur qui est assez extraordinaire, qui se fixe pas de limite. Et je trouve que Mpecci, on dit Mpecci ou Mpecci? Je sais pas,
Oh, on
mais
dit comme on veut pour l'instant.
voilà.
Mais de toute façon,
On
on nous
espère qu'il y aura des
reprendra.
débats.
On nous reprendra de toute façon.
Je trouve que GMP, on va faire comme ça. Je trouve que Mpecci Perricard a ce feu-là, c'est-à-dire cette ambition et ce côté décomplexé qui peut faire qu'il franchira aussi des caps que certains pouvaient s'interdire par le passé. J'en veux pour exemple ce tournoi de Anvers, qui était donc comment dire, le tournoi pour l'instant référence pour lui sur le circuit ATP, puisque c'est ses deux premières victoires sur le circuit. Mais ce qui m'a intéressé surtout, c'est la manière en fait. Dans son premier match, il prend 6-0 dans le premier set quand même. Il prend 6-0 dans le premier set, et puis
Il a sauvé une balle de match.
il a sauvé une balle de match et il gagne 7-6, il me semble,
C'est ça, au
au
troisième.
troisième set. Dans son deuxième match, il joue un type quand même qui, même s'il n'est plus au niveau où il était, David Goffin, est une référence sur le circuit et puis surtout,
Joue à la maison.
il joue à la maison, David Goffin. Et il y va comme si de rien n'était. Et d'ailleurs, David Goffin, à la sortie du cours, frustré, dit quand même, bah, il a de l'avenir. J'ai eu l'impression d'affronter Karlovic ou Isner. C'est-à-dire que vous pouvez pas trouver le rythme. Et puis quand le premier échange arrive après 10 minutes sans échange, vous vous dites que c'est qu'il faut absolument le gagner parce que si vous le gagnez pas, vous y arriverez pas, vous vous en sortirez pas. Donc y a ça. Il met déjà ce type de pression sur ses adversaires. Et il faut pas non oublier, pardon, il faut pas non plus oublier qu'en quart de finale, il prend un set à Alexander Bublik qui est
Le
le
futur vainqueur.
futur vainqueur du tournoi. Donc il croit déjà bien en ses armes et en son potentiel. Il a un revers à une main pour un géant, c'est quand même rare. C'est pas comme Isner et Karlovic justement. Et Manu Planck, qui était interviewé par nos confrères de l'équipe la semaine dernière, disait que ce qui est intéressant, c'est de le parfaire techniquement, justement, pour que même si à l'échange, ce sera difficile pour lui de gagner des points, hein, si les échanges durent. Il veut pas qu'il ait de défauts techniques rédhibitoires et qu'il puisse avoir plusieurs tactiques dans un match. Et je pense que c'est une très belle façon de voir les choses. Et à mon avis, il a de beaux jours devant lui, à condition évidemment qu'il maîtrise ce physique particulier qui lui a valu quelques petites blessures pendant sa croissance, ce qui est très logique hein, quand vous mesurez plus de 2 mètres. C'est difficile à contrôler. Mais voilà, c'est très, très prometteur et on aime ça parce qu'on a des perspectives avec ce tennis tricolore, cette jeunesse agréable, surtout en vue des Jeux qui arrivent bientôt. C'est bien.
Oui, et avec au-delà des résultats individuels, cette émulation aussi, on sent que ça compte et qu'ils se tirent vers le haut, tous ces joueurs. Il a battu donc Carbajs Baena au premier tour à Anvers, ce qui est quand même pas une mince affaire, hein. C'est le genre de joueur très difficile à battre, l'Espagnol. Et donc David Goffin, l'ancien numéro 7 mondial. Donc on espère que c'est le début d'une belle série pour celui qui était allé remporter un challenger au Mexique hein, au printemps dernier. Qui avait plus l'habitude de ces tournois-là. Donc, on espère le voir maintenant de plus en plus souvent sur le circuit ATP. Fan de Nadal à la base, effectivement, quand il était plus jeune, fils de joueur de foot, donc qui a choisi le tennis finalement, mais voilà, qui a des choses très intéressantes à montrer. On va passer à notre dernière partie. La course au Masters de Turin est en train de se jouer. Il se rapproche, ce Masters édition 2023, qui aura lieu à partir du 12 novembre. Et l'on connaîtra bientôt les 8 élus qui participeront à Turin à cette réunion des maîtres. Pour le moment, 4 des 8 qualifiés sont connus. Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev et Yannick Sinner. Andrei Rublev, qui est cinquième, est quasiment assuré de sa place lui aussi. Et derrière, on a Stefanos Tsitsipas, sixième, Alexander Zverev, septième, et Holger Rune, huitième. Pour eux, la situation est un petit peu plus compliquée. Ils sont virtuellement qualifiés, mais ils sont chassés par trois autres joueurs, on va dire Taylor Fritz, Casper Ruud et Hubert Hurkacz. Et on peut dire, Maxime, Arnaud, que personne n'a vraiment tiré son épingle du jeu la semaine dernière avec des défaites précoces dans les tournois. Donc, il y avait Tokyo, il y avait Stockholm et il y avait Anvers. Donc, on peut se demander, est-ce que ces cadors sont un peu en bout de course en cette fin de saison? Qu'est-ce qui va réussir à terminer le mieux ce sprint final pour vous?
Vas-y, vas-y.
On sent que c'est
Tu
des joueurs qui
d'accord.
sont en difficulté. Hein. Holger Rune qui a des résultats en chute libre, qui a perdu d'entrée à Stockholm, mais ses rivaux n'en ont pas profité. Donc, on a parlé de Ruud, de Fritz, de Zverev et Hurkacz qui ont aussi perdu assez tôt. Ils sont rincés, tous ces joueurs.
Ouais, c'est sûr que c'est la fin de saison. Alors, puisque Arnaud me donne la main, je la prends. Non, la semaine dernière, c'était assez cocasse parce que chaque jour, on se disait, ah, tiens, celui-là fait une mauvaise opération. Attention, il va se faire doubler. Donc, on a commencé par Alex Zverev, qui avait perdu dès le lundi à Tokyo, il me semble. Ouais, Tokyo contre Thompson. Une mauvaise défaite contre Jordan Thompson. Et on se disait,
Très, très vilaine, ouais. Très, très vilaine la
très
défaite.
vilaine défaite. Septième à la race. Aïe, aïe, aïe. Il va se faire rattraper par d'autres, notamment Taylor Fritz, qui était aussi à Tokyo. Et puis Taylor Fritz se fait battre en huitième, il me semble, par la sensation japonaise Mochizuki, qui nous a fait plaisir, hein, un joueur qui était 215e mondial la semaine dernière et qui a fait du service volé, qui a été inspiré, qui nous a fait un peu rêver avec un tennis offensif auquel on n'ose plus rêver souvent d'ailleurs. Donc c'était très très bizarre de voir Fritz perdre, d'autant qu'il était tenant du titre à Tokyo. Et puis Urkacz a pas enchaîné après Shanghai. Il a gagné Shanghai et puis il s'est fait battre aussi dès son entrée en lice à Tokyo. Pareil ensuite pour Demi-Nord. Bref, tous les uns après les autres
Casper Ruud aussi.
sont tombés. Casper Ruud aussi. Ils sont tous tombés. Tommy Paul aussi face à Shelton. Bon, Shelton étant très en forme actuellement, c'était pas totalement une surprise. Mais ça en faisait un de plus. Et donc, en fait, ils se sont neutralisés,
Neutralisé.
on peut le dire, dans la semaine dernière, dans cette course au Masters, si bien que c'est le statu quo à une semaine de Paris-Bercy, qui est traditionnellement le juge de paix dans cette course au Masters. Alors, s'il y avait deux éléments à retenir pour avoir un peu les choses bien en tête, c'est que les cinquième et sixième places, qui sont détenues par Rublev et Stefanos Tsitsipas, sont presque assurées. Surtout Rublev, il est quasiment qualifié pour le Masters. Tsitsipas a 650 points d'avance sur le neuvième, qui est le premier non qualifié. Donc on peut se dire que là, dans les 2 semaines qui arrivent, il y a 1500 points max qui peuvent être distribués entre Vienne, Bâle et Bercy. On peut se dire que cette marge-là de 650 points, qui est plus d'un tiers des points maximum qu'on peut récolter, c'est quand même assez confortable pour Stefanos Tsitsipas, même si, avec la forme précaire qu'il a en ce moment, il faut qu'il fasse attention. Mais disons que les cinquième et sixième places sont plutôt, en tout cas, ces tickets-là sont plutôt bookés. Donc il reste deux tickets à assurer pour Turin, qui sont actuellement détenus par Alexander Zverev, septième, et Holger Rune, huitième. Dans la dynamique actuelle, je serais beaucoup plus inquiet pour Holger Rune, qui ne gagne plus, c'est simple. Depuis Wimbledon, il a gagné un match, il me semble. Donc, c'est très, très compliqué pour Holger Rune, qui va peut-être se relancer en ayant changé de coach, puisqu'on a appris il y a quelques jours que Boris Becker allait l'accompagner sur cette fin de saison. Ensuite, on verra si ça continuera en 2024. Mais connaissant le caractère de Boris Becker pendant sa carrière, je trouve que le mariage est plutôt intéressant
Ouais.
avec Holger Rune. Donc on va voir s'il y aura un électrochoc et il en a besoin, Holger Rune, parce qu'il n'a que, par exemple, 55 points d'avance sur Taylor Fritz. Donc
Et ils sont
voilà,
tous les deux à balle cette semaine.
ils sont tous les deux à balle cette semaine. Et le deuxième constat important, c'est qui peut prétendre encore à ces deux places. De manière assez évidente, on peut aller jusqu'à Alex de Minaur, qui a 2560 points, c'est-à-dire 500 points, un peu plus de 500 points de retard sur Holger Rune. Donc Alex de Minaur qui est 13e. On va dire Holger Rune, Taylor Fritz, Casper Ruud, Hubert Hurkacz, Tommy Paul et Alex de Minaur sont plutôt les joueurs les plus les candidats les plus crédibles à cette dernière place au Masters. Mais on peut pas exclure de cette course non plus des joueurs comme tiens Ben Shelton, qui après
Ah,
sa
quand même.
demi-finale à l'US Open, qui après son quart de finale à Shanghai, qui après son titre à Tokyo, premier titre sur le circuit, et pas n'importe quel titre, un ATP 500.
L'ATP 500, oui.
Et maintenant, revenu à la 14e place mondiale, ce qui fait qu'il y a 4 Américains,
Dans le top 15,
dans
ouais.
le top 15, ce qui s'était pas vu depuis 25 ans, je crois, un truc, quelque chose comme ça. Alors maintenant, ce qui est co cocasse, c'est qu'il pourrait n'y avoir aucun Américain au Masters quand même. C'est-à-dire qu'ils sont tous très regroupés entre la 9e et la 14e place mondiale. Mais voilà, Shelton est à. Il est loin quand même de Runeux. Il est à 835 points de Runeux. Mais
Ouais, mais l'ambiance
mathématiquement,
de Bercy.
avec la forme qu'il a, c'est pas exclu de voir Shelton grappiller cette dernière place. D'autant qu'il pourrait y avoir un ou deux fois forfait aussi hein, pour le Masters. On ne sait pas à l'heure actuelle qui sera en forme. On sait d'ailleurs que Carlos Alcaraz, j'espère qu'il sera là, parce que Carlos Alcaraz a dû déclarer forfait à Bâle cette semaine. Donc, c'est une fin de saison, les organismes sont fatigués, il y a des blessures, et donc il y a plus de prétendants que ce qu'on pourrait croire. Et donc, j'ai envie de dire que jusqu'à Tiafoe, qui est 16e et qui a 890 points de retard sur Runeux, c'est jouable. Après, il y a un gap. Dimitrov étant accusant près de 1150 points de retard sur Rune, je pense que le 17e, à partir du 17e,
Bon, on va pas aller trop loin non
c'est
plus.
très compliqué. Mais voilà,
Le
un peu,
tirage au sort
pourquoi
du Rolex
pas,
Paris Masters va être intéressant à suivre, hein,
très
dans ce sens.
intéressant, et pourquoi pas une surprise à la Shelton en cette fin d'année. En tout cas,
Tu mises dessus, toi, Arnaud? Ben Shelton?
bah, moi, évidemment, j'attendais que Maxime en parle quand même. J'ai suivi. Mais à quel moment va-t-il en parler? C'est pas possible. Il est en train de nous dérouler là tous les prétendants, tous les postulants. Et puis là, et il est où Shelton? Bah, c'est incroyable ce qu'il est en train de réaliser. C'est fou. Au-delà, enfin, on va pas revenir sur son année. C'est pareil. C'est complètement dingue. Il n'avait pas voyagé, et jamais pris l'avion. Et puis là, il se retrouve cette année à 14e. Enfin, c'est ça, ouais.
14e.
14e.
Ouais,
Non,
il en a
c'est
gagné des
14e.
miles.
C'est hallucinant. Oui, il en a gagné des miles. C'est assez hallucinant. Non, et puis son tennis, c'est ce que tu dis, Anne aussi. Je pense que se marie parfaitement avec l'esprit du Rolex Paris Masters et le public. Donc, il peut faire des étincelles. On va voir comment il va arriver, dans quelle disposition physique, dans quelle disposition mentale, parce que l'enchaînement, quand même, il est lourd. Et bon, après, il est jeune, il y a encore cette innocence, on sent cette fraîcheur, on sent cette envie. Et en effet, après, moi, juste, enfin, encore une fois, par rapport à tout ce que tu avances, Maxime, il y a juste que le Masters, c'est le Graal, c'est donc une pression très importante. Et même si tu y as déjà participé, c'est un objectif de tous les instants, pour tous les joueurs. C'est quelque chose d'exceptionnel de pouvoir participer aux Masters, aux Finals. Donc forcément, tu peux passer un peu à côté, ça peut te crisper, ça peut te tendre, tu peux y penser beaucoup. Quand t'es pas loin comme ça, quand il y a tout un petit paquet là qui se tient dans un mouchoir de poche, et réussir à tirer son épingle du jeu. Donc, on sait qu'il reste pas beaucoup d'occasions. Il faut pas se louper. Et c'est là où justement, on va voir ceux qui, ont peut-être fait des programmations plus cohérentes, ont été plus pertinents dans leur année. Tout ça, en fait, c'est très intéressant parce que c'est en fin d'année vraiment que tu récoltes un peu ce que tu as semé finalement tout au long d'une année qui est longue, qui est éprouvante à tous les niveaux.
On n'en a pas beaucoup parlé, mais Casper Ruud, actuellement, n'est pas qualifié pour le Masters. Hein. Il est
Bah
dixième,
c'est plutôt assez logique aussi au vu
il
de
est
sa
dixième
saison quand même.
mondial. C'est logique au vu de sa saison, mais on parle quand même du finaliste sortant du Masters et du finaliste aussi de Roland-Garros. Donc
C'est tout le paradoxe de Casper Ruud
voilà,
et il est capable d'aller la chercher cette qualif, hein.
oui, bien sûr, sachant que, comme je disais, Holger Rune est en méforme totale. Est-ce que Sacha Zverev va se reprendre un peu? Parce qu'il a fait un très bon début de tournée asiatique et puis il a accusé le coup ensuite. Je pense que oui. Et puis il est quand même sur une dynamique de confiance qui est autre que celle de Holger Rune. Donc, c'est tout le monde a sa carte à jouer. Tout le monde a sa carte à jouer vraiment. C'est très ouvert. Et comme le disait Arnaud, c'est encore plus que physique, c'est très mental.
Oui.
Qui va tenir cette pression-là de se dire, il faut pas que je me loupe, j'ai très peu de chance de montrer que, enfin, d'accumuler des points, il faut pas que je les loupe. C'est un bras de fer avec soi-même.
Ouais, c'est un vrai sprint final mental et physique qui se prépare. Rendez-vous vendredi pour le tirage au sort de Bercy, qui va aussi peut-être nous donner quelques indications. Et
Et
puis.
puis d'ici là, la dynamique aura peut-être changé puisque Bâle et Vienne cette semaine
Ils jouent
sur
tous, hein.
Eurosport aussi, hein, sur
Ouais.
Eurosport.
Rune, Fritz, Urcash et Root sont à Bâle, Tsitsipas et Zverev sont à Vienne.
Exactement, avec des affiches incroyables. On parlait de notre ami Arthur Fils. Qui il va affronter au premier tour? Daniil Medvedev à Vienne.
Ouais.
Donc voilà, ça dit beaucoup de choses de la densité du programme qui nous attend.
On va se régaler. Donc soyez au rendez-vous sur eurosport.fr, sur Eurosport pour suivre toute cette semaine Vienne et Bâle, et puis la semaine prochaine le Rolex Paris Masters qui démarre dès lundi. Merci à tous, Deep Impact, c'est fini pour cette semaine. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire. Abonnez-vous aussi, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre téléphone. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, suivez l'actu sur eurosport.fr et sur nos antennes, bien sûr. Merci Arnaud, merci Maxime.
Merci à vous deux. Salut Anne, salut Maxime.
Merci à tous.
Bye bye.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.